Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Audrey.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
Près d'un Français sur six sera en situation de pauvreté en 2020. C'est l'estimation du Secours catholique. Vous entendrez sa présidente, elle nous explique la situation de la pauvreté en France.
Dans notre département, les associations se mobilisent pour aider les plus précaires. Le président de la Banque alimentaire de l'Ain et le trésorier du Secours populaire de l'Ain sont nos invités.
Reportage au restaurant La Canaille, toujours en activité. Il fête ses 10 ans d'existence cette année. Un concept simple, un menu unique, tous les midis et accessible à tous.
Et on commence tout de suite avec l'actualité.
Bourque, en bref.
Les restaurateurs sont en colère. Ils vont manifester mardi 24 novembre devant la préfecture de Bourg-en-Bresse à partir de 18h. Et juste avant la prise de parole du président Emmanuel Macron qui, elle, a lieu à 20h. Leur ouverture n'est envisagée pour l'instant qu'en janvier.
Et autre manifestation, ce même jour est toujours à 18h, place de la Comédie, cette fois contre la loi de sécurité globale. Elle est examinée au Sénat ce mardi. Un article de cette loi est vivement critiqué pour son atteinte à la liberté d'informer. Il vise à interdire la diffusion d'images non floutées de police et de militaires si elles portent préjudice à la personne.
Et si vous êtes en manque d'idées pour vous divertir, seul ou en famille, les médiathécaires de Bourg-en-Bresse vous proposent des packs DVD, romans, BD ou encore un mix de tout ça. Vous choisissez ce que vous préférez et une fois à la maison, découvrez 5 documents surprises. Vous pouvez retirer un pack par personne. Ça se passe dans les 3 médiathèques de Bourg. Et si vous n'êtes toujours pas inscrit, c'est gratuit jusqu'à la fin de l'année. Rendez-vous sur culture.bourg-en-bresse.fr.
2 minutes, une actu.
Alors Audrey, aujourd'hui, vous nous parlez des conséquences sociales et économiques planétaires de cette pandémie.
La pire crise mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale. Une crise économique qui pourrait être la plus dévastatrice de ces dernières décennies. C'est le constat fait par le secrétaire général des Nations Unies et la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Et pour cause, tous les secteurs sont touchés, l'éducation, la santé ou encore la culture. Résultat, les inégalités se sont accentuées. Et point commun partout dans le monde, ce sont les plus vulnérables les plus touchés, ceux qui ont le moins de revenus, les femmes ou encore les migrants. L'Organisation des Nations Unies dédiée au commerce parle d'un impact sévère en Afrique et dans les pays les moins avancés. Et ces pays sont majoritairement en Afrique. Ce continent devrait représenter plus de la moitié de l'extrême pauvreté mondiale en 2020. Alors si dans les pays développés comme la France, le président de la République a annoncé des soutiens économiques, je le cite, « quoi qu'il en coûte », dans beaucoup de pays, la majorité des travailleurs n'a aucune protection sociale ni aucun soutien à l'emploi.
Et du côté de l'Europe ?
Les pays développés, comme les appellent les Nations Unies, ne sont pas épargnés et seront même les plus touchés cette année, avec en tête la zone euro. Jamais autant de pays n'ont connu simultanément une telle récession, annonce la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Croissance négative autour de moins 8% pour l'Italie et la France et près de moins 5% en Allemagne.
Alors ce tableau est bien sombre. Est-ce que l'organisation de l'ONU a un peu d'espoir ?
Alors cette dernière l'imagine, mais comme elle le dit, tout dépendra des choix faits dans chaque pays et au niveau international. Le président de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement a affirmé, je le cite, « Il est encore possible de transformer la crise de la Covid-19 en un chapitre positif avec, entre autres, un avenir plus durable ».
Et à l'échelle nationale, 10 millions de pauvres en 2020, soit un Français sur 6. C'est l'estimation dévoilée par le rapport du Secours catholique. Le rapport se base sur les données de l'INSEE, l'Institut de statistique. Cette augmentation de la pauvreté se voit aussi dans d'autres indicateurs comme le RSA, le revenu de solidarité active. Les demandes ont augmenté entre 10 et 20% selon les départements. Et pour l'un, c'est une augmentation de 16%. Véronique Fayet est présidente du Secours catholique. Elle nous explique la situation de la pauvreté en France.
Ce que dit le Secours catholique, c'est que déjà en 2019, l'analyse de la situation était très dramatique et notamment on a fait une analyse très fine des budgets des ménages qui montre que les ménages sont face à des choix impossibles, que les familles, notamment les familles avec enfants, sont les plus paupérisées et ont du mal parfois même à se nourrir.
Et donc comment on peut dire qu'une personne rentre dans la catégorie de la pauvreté ?
Alors la définition de la pauvreté, c'est l'INSEE qui la donne. Quand on parle des 10 millions, selon l'INSEE, c'est des gens qui sont sous le seuil de pauvreté. Et le seuil de pauvreté, c'est 60% du revenu médian. Le revenu médian, c'est ce qui partage la France en deux. Il y a 50% qui ont plus et 50% qui ont moins. Donc aujourd'hui, le seuil de pauvreté défini par l'INSEE, c'est autour de 1 000 euros par personne ou par unité de consommation, plus précisément, et par mois. Voilà. Donc l'INSEE dit aujourd'hui, il y a approximativement 10 millions de personnes en France qui vivent sous ce seuil. Mais nous touchons au Secours catholique des familles qui sont beaucoup plus pauvres que ça. Et donc on a fait une étude très fine sur 3000 familles, des familles qui ont des droits sur le territoire français, donc qui ont le droit de se loger, qui ont le droit de travailler ou de recevoir des allocations. Et donc quand on analyse leur budget, une fois payées les dépenses contraintes et obligatoires, comme le loyer, les factures, l'assurance de la maison, le téléphone et l'accès Internet, qui est maintenant indispensable si on veut accéder à ses droits, la cantine des enfants, c'est toujours une priorité. Voilà, une fois qu'on a payé toutes ces dépenses contraintes, eh bien la moitié des familles rencontrées par le Secours catholique ont entre 2 et 9 euros par jour et par personne, ce qui est très peu. Et on a même un quart des familles qui ont 4 euros par jour et par personne pour les dépenses d'alimentation, mais aussi les dépenses d'hygiène qui sont importantes, et puis bien sûr les éventuels loisirs. Donc ça veut dire que ces familles, notamment ces familles avec enfants, sont devant des choix impossibles, qu'elles doivent se priver de tout. Et souvent elles mangent peu ou mal, ou elles sont obligées d'aller dans des distributions alimentaires. Tout ce qui fait la vie sociale, notamment pour les enfants, est impossible. Participer à l'anniversaire d'un petit copain, c'est impossible parce qu'on ne peut pas acheter de cadeaux et qu'on ne peut pas inviter le petit copain chez soi. Voilà, donc c'est des privations très fortes pour les familles, des privations quotidiennes et qui touchent notamment les enfants.
Dans ce rapport, est-ce que vous établissez aussi les profils des personnes qui sont rentrées dans cette pauvreté ? Là, vous avez parlé des familles, il y a peut-être aussi des célibataires, des jeunes.
Depuis la crise, effectivement, on a aussi d'autres indicateurs. On voit évidemment des gens nouveaux, beaucoup de jeunes qui avaient des petits boulots, de l'intérim, des petits contrats saisonniers dans l'hôtellerie, la restauration, évidemment, qui ont perdu tout cela. Donc beaucoup de jeunes, des travailleurs indépendants qui venaient de s'installer, qui tout d'un coup perdent les contrats qui commençaient à arriver, donc ils se retrouvent sans rien. Voilà, donc c'est extrêmement varié. Beaucoup de gens, effectivement, qui n'avaient pas l'habitude de venir frapper à la porte des associations, qui n'avaient pas l'habitude d'aller voir un travailleur social et qui souvent ignorent leurs droits. Donc le premier travail, c'est de les orienter vers des travailleurs sociaux pour voir s'ils auraient le droit, par exemple, à la prime d'activité qui complète les revenus du travail, s'ils auraient le droit à une aide pour payer leur loyer ou pour payer la cantine des enfants. Voilà. Et donc c'est un travail complémentaire entre les associations et les travailleurs sociaux pour soutenir les gens le mieux possible.
Ce chiffre, 10 millions de pauvres, c'est du jamais vu en France ?
Non, ça c'est à confirmer par l'INSEE, mais les chiffres de l'INSEE sur la période 2020 ne seront vraiment officiels que fin 2021. Voilà. Donc pour l'instant, on est sur des estimations. Ce qu'il faut bien noter aussi, c'est que l'indicateur monétaire, ce chiffre de 10 millions qui ne parle que de l'indicateur financier, n'est pas le seul indicateur de pauvreté. Ce qui est très grave aujourd'hui, c'est la pauvreté de relations, l'absence de liens. Certes, les gens ont des difficultés matérielles, mais ce qui est aussi une grande souffrance et qui ne se mesure pas, c'est la solitude, l'isolement, l'angoisse, la peur pour une maman d'être malade, que vont devenir mes enfants si je suis malade, l'isolement des personnes âgées, des personnes handicapées, voilà. Donc c'est toute cette question aussi du lien social, de la souffrance morale que les associations essayent de prendre en compte aujourd'hui. Et nous, par exemple, au Secours catholique, même pour les gens qu'on ne pouvait plus voir parce que nos bénévoles ne pouvaient plus sortir ou que les gens eux-mêmes ne pouvaient plus sortir, eh bien, on essaye d'avoir des chaînes téléphoniques, on essaye d'avoir un soutien par des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, des choses comme ça. Et ce soutien psychologique et moral est très important. Les gens nous disent... Bon, recevoir un petit coup de fil d'un bénévole une fois par semaine, voilà, ça me sauve parce que j'ai peur, j'angoisse, parce que je me sens seule, parce que j'ai peur pour mes enfants. Voilà, donc cette souffrance psychique et psychologique, elle est aussi au moins aussi douloureuse actuellement que la souffrance et l'inquiétude matérielle.
Donc justement, cette souffrance psychique, comme vous dites, et aussi cette précarité, est-ce que vous voyez que la pandémie a accéléré tout ça ?
C'est des choses un peu invisibles. Est-ce qu'il y a plus de gens qui dépriment ? Alors ça, c'est dans toutes les catégories sociales, riches ou pauvres, c'est-à-dire la solitude, l'angoisse, la psychose qu'il y a parfois dans certains médias peuvent conduire des gens fragiles vers la dépression. Oui, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et espérer que ce déconfinement va se faire le plus rapidement possible pour que les gens retrouvent une vie sociale. Voilà, être privé de vie sociale, être privé de liens avec ses enfants, avec ses petits-enfants, c'est presque aussi douloureux que d'être privé de biens matériels.
Donc une question plus globale, que faut-il faire selon vous pour sortir ces personnes de la pauvreté ?
Alors je crois qu'il faut commencer par agir chacun dans notre voisinage. Chacun peut faire quelque chose, voilà, pour être attentif au voisin, à la voisine, à une personne âgée du quartier. Donc faire un geste qui soit partager un repas, soit l'aider dans ses démarches administratives, soit l'accompagner quand on pourra sortir, accompagner une personne dans un service social pour voir si elle peut être aidée par un service. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit la solidarité de proximité, la fraternité qui se manifeste pour donner du réconfort, pour dès qu'on pourra inviter son voisin à déjeuner ou à dîner. Voilà, on a besoin de se réconforter, on a besoin de se retrouver et puis ensemble trouver les moyens pour résoudre les problèmes de la pauvreté. Alors le gouvernement peut faire des choses et doit faire des choses, mais chacun de nous aussi peut agir, rejoindre une petite association de quartier qui organise un repas solidaire ou qui va préparer un repas solidaire pour Noël, par exemple. Voilà. Il y a des milliers de petites initiatives de quartier et puis éventuellement inventer aussi des choses nouvelles. Mais il y a vraiment un travail à faire pour chacun et chacune dans la proximité.
Donc vous pensez qu'aujourd'hui, c'est à l'échelle du local qu'on va trouver les réponses et que tout ce qui est répartition des richesses, prendre aux plus riches, donner aux plus pauvres ou encore prendre aux grandes entreprises via l'impôt, ça, c'est des choses trop complexes à mettre en place ?
Ah non, pas du tout. Et c'est la tâche du Secours catholique de porter ce plaidoyer national, voire même international, parce que évidemment, il faut aussi une transformation profonde de la société, il faut plus de justice, une meilleure répartition des richesses. Bien sûr qu'il faut faire tout ce travail-là, une fiscalité plus progressive, voilà. Donc bien sûr, ce travail-là, il se fait, mais il est long, il est très lent, il demande beaucoup de travail, et c'est pour ça que le Secours catholique fait alliance avec d'autres associations et même avec des syndicats. Nous avons un groupement qui s'appelle le Pacte du pouvoir de vivre, qui regroupe des associations de solidarité comme le Secours catholique, des associations de protection de l'environnement comme la Fondation Nicolas Hulot, et des syndicats comme la CFDT ou d'autres. Voilà. Et donc c'est dans cette alliance de 60 organisations que nous espérons peser sur des choix politiques qui transforment profondément la société. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, et donc en attendant, il faut aussi concrètement sur le terrain des gestes citoyens, des actions citoyennes fortes qui expriment cette solidarité. Et la solidarité de proximité, elle a un impact fort sur les politiques, parce que quand des élus, quand un gouvernement se rend compte que les citoyens sur le terrain agissent pour la solidarité, qu'ils ont envie de solidarité, qu'ils ont envie de plus de justice, d'une meilleure répartition des richesses, eh bien ils sont poussés à faire des gestes politiques forts aussi qui vont dans le même sens. Voilà. Donc c'est l'interaction entre les deux qui porte du fruit, et c'est la richesse d'une association comme le Secours catholique de pouvoir allier un travail de terrain très concret, très opérationnel, et un travail politique concret aussi, mais qui porte des fruits à plus long terme. Voilà. Donc il faut les deux, vous avez tout à fait raison de souligner qu'il faut les deux. Et donc chacun à sa mesure, ben, on agit sur le terrain, ou si on est élu, ben, on agit plus sur le champ politique.
Merci beaucoup Véronique Fayet, je rappelle que vous êtes présidente du Secours catholique.
L'invité de Radio B.
Avec nous en studio, deux représentants d'associations de notre département. Didier Dussard, président de la Banque alimentaire de l'Ain, bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Paul Albou, trésorier du Secours populaire de l'Ain, bonjour.
Bonjour.
La pandémie donc, a aggravé la situation. Des personnes ont plongé dans la précarité, comme l'a expliqué la présidente du Secours catholique. Un autre chiffre que vous nous avez donné, Jean-Paul Albou, celui du baromètre Ipsos Secours populaire 2020, un Français sur trois a subi une perte de revenus. Alors, est-ce que ce constat d'augmentation de la précarité, vous le partagez dans l'Ain ? Alors, on va commencer avec vous, Jean-Paul Albou, au Secours populaire.
Bien entendu, ce qu'il faut retenir, d'une manière générale, c'est que les plus précaires sont les premières victimes de l'épidémie. Au-delà de ça, et en évoquant ce dernier baromètre du Secours populaire avec Ipsos, et au-delà de cette pauvreté, sachant, comme vous venez de le dire, qu'un tiers des Français ont subi une perte de revenus à la suite de la crise sanitaire, au plan national, le Secours populaire fait face à 45% d'augmentation des demandes d'aide de nouvelles personnes depuis le premier confinement. Bien entendu, nous savons que ça ne va pas s'arrêter là. Au-delà de la crise sanitaire, la crise économique se profile, et donc nous sommes sur le terrain face à cet accroissement depuis le 16 mars et qui ne s'arrête pas. Alors je voudrais juste évoquer, puisque nous sommes bientôt dans les périodes des fêtes de fin d'année, que la crise sociale déclenchée par la pandémie met à mal les enfants. Ces derniers sont les victimes immédiates de la crise sanitaire et économique.
Et ça, comment vous le voyez sur le terrain, à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain ?
Eh bien, on a pu accueillir les familles, évidemment. On a aussi dû essayer de gérer le mieux possible pendant la période de confinement les enfants qui étaient un petit peu livrés à eux-mêmes, pour essayer de développer des actions vers une aide scolaire, etc., répondre aux parents et aux angoisses des parents avec ces enfants qui restaient chez eux et pour lesquels il n'y avait plus le suivi, la scolarité, etc.
Et donc c'est surtout chez les enfants que vous voyez qu'il y a une augmentation de la précarité. Est-ce qu'il y a un autre public qui vient et qui ne venait pas avant ?
Bien entendu, ça a été évoqué précédemment par la présidente du Secours catholique. Je reviens sur la situation des précaires hein, dans notre société. Ces gens qui sont un petit peu sur le fil du rasoir et que la crise sanitaire, dans un premier temps, a fait basculer. Alors, sont les étudiants qui avaient des petits jobs, sont les intérimaires voilà, qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans revenus. Ce sont aussi des personnes isolées, âgées. L'Ain est un département où on a une grande ruralité. Et ces personnes, elles se retrouvent confinées, isolées, du jour au lendemain, sans contact et éventuellement sans ressources.
Donc on va passer du côté de la Banque alimentaire de l'Ain. Didier Dussart, comment vous voyez cette précarité sur le terrain ?
Ben, la précarité vis-à-vis de toutes les associations partenaires qui ont signé une convention avec la Banque alimentaire, on s'aperçoit que la précarité, elle a aussi augmenté. Alors, je n'irai pas dans le même pourcentage du Secours populaire. Moi, nous, on regarde par rapport à nos chiffres qu'on a aujourd'hui. Si je prends le comparatif entre octobre 2019 et octobre 2020, c'est les derniers chiffres, on a une augmentation d'à peu près 7%, quoi. 7%. C'est pas pour ça qu'on n'est pas inquiet. Aujourd'hui, la précarité, Jean-Paul l'a bien dit, la précarité, elle est en augmentation. Et puis, change un peu de profil. Autant avant, on avait les gens pauvres, les gens qui étaient déjà installés dans une précarité. Je rappelle que le seuil de pauvreté, il ne cesse d'augmenter. Depuis des années, le seuil de pauvreté augmente. Et ce n'est pas cette crise qui va nous faire baisser ce seuil de pauvreté. Mais aujourd'hui, la population, et Jean-Paul a bien dit, le type de population change. Aujourd'hui, Jean-Paul a parlé des gens, des étudiants, des personnes âgées, des gens qui sont des nouveaux chômeurs, etc., etc. Donc elle change, et les besoins ne sont pas forcément les mêmes de ces personnes-là.
Donc on voit qu'il y a des difficultés aussi dans cette pandémie, déjà pour avoir de l'aide, avoir des denrées. En quoi ça a bouleversé votre fonctionnement, cette pandémie, et quelles sont les grandes difficultés auxquelles vous devez faire face aujourd'hui ?
Il y a un premier point qui est quand même essentiel, c'est que pour une association comme le Secours populaire, il a fallu tenir sur le terrain. C'est-à-dire préserver cette distribution alimentaire, comme vous l'avez compris, qui est devenue essentielle pour un grand nombre de personnes qui arrivaient. Et sachant que, de notre côté, il fallait aussi préserver nos bénévoles, qui sont âgés pour certains, et qui ne pouvaient plus être sur le terrain, on va dire, en première ligne. Donc voilà, ça a été un travail de continuité, malgré une influence record. Et ce qu'il faut retenir, c'est que jusque maintenant, on a tenu le choc.
Donc en fait, vous devez gérer plus de personnes qui viennent avec un peu moins de gens, si les personnes âgées sont un peu à risque.
Alors tout à fait, sachant que c'est à souligner, on a vu arriver de nouveaux bénévoles qui étaient confinés chez eux, et qui, dans cet élan de solidarité, sont venus nous aider. Donc je dirais que c'est l'aspect un petit peu positif des choses, c'est qu'il y a eu du sang neuf qui est venu prêter main forte et qui a permis de maintenir à flot cette distribution alimentaire qui est essentielle.
Est-ce que vous pouvez rappeler à quel moment de la semaine c'est, à quel horaire ?
Alors c'est aujourd'hui, je vais dire... pour grande partie de la journée, les mardis et jeudis.
Et donc ça se fait dans vos locaux ?
Ça se fait dans les locaux 32 boulevard Victor Hugo à Bourg-en-Bresse, avec un point accueil.
Et donc du côté de la Banque alimentaire, quelles ont été les grandes difficultés face à cette pandémie pour fonctionner ?
Alors, autant la première phase de confinement a vu pour nous d'avoir des denrées en surnombre. Parce que les magasins étant fermés, il a fallu qu'ils se débarrassent de leur stock. Donc on a eu un afflux de denrées qu'il a fallu essayer de dispatcher vers nos associations, mais aussi vers les d'autres banques alimentaires de la région. Aujourd'hui, on est sur l'inverse. Aujourd'hui, on a des ramasses qui sont en forte baisse. Et donc, il nous faut aller s'approvisionner autrement. Et l'approvisionnement aujourd'hui, c'est d'aller acheter des denrées. C'est ce qui n'est pas le cœur du métier de la banque alimentaire. La banque alimentaire, on est là pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et aujourd'hui, on n'est plus dans ce jeu-là. On devient des acheteurs où, pour pouvoir donner à manger aux personnes, il nous faut aller acheter des denrées. Et donc c'est un nouveau métier qui arrive à la banque alimentaire et qui n'est pas facile à gérer.
Et donc Vlad, vous devez acheter des denrées. Est-ce que vous avez un budget pour ça? C'est un nouveau budget qui s'est créé?
Alors grâce aux subventions exceptionnelles de l'État, du département, de mécènes, de particuliers, on a pu, de la Chambre d'agriculture, enfin bref, de plein de partenaires, on a pu aller acheter des denrées, quoi. Donc on va acheter des denrées en privilégiant au maximum les producteurs locaux, quoi. On essaye de faire fonctionner les producteurs locaux qui marchent pas trop mal, on va dire.
Vous avez parlé donc, Didier Dussart, d'une diminution des ramasses. Comment ça s'explique?
Ça s'explique par le fait que les magasins se sont réinventés. Les magasins ont travaillé sur des dates courtes. Enfin, vous voyez, quand vous allez dans les supermarchés, bien souvent, maintenant, vous avez des rayons de dates courtes. Ils optimisent leur stock.
Mais ça, c'est lié à la pandémie, ou c'était quelque chose qui existait déjà avant?
On l'a vu, on le voyait déjà avant, mais aujourd'hui, ça s'est vraiment accentué, quoi. Aujourd'hui, les magasins, ils vont au plus juste, quoi. Ce qui s'est passé au mois de mars, ils n'ont pas envie de le revivre, donc ils sont très vigilants par rapport à ça, quoi.
Donc vous, ce nouveau système de fonctionner à la banque alimentaire, d'acheter des denrées, c'est quelque chose que vous allez devoir penser au long terme, vu que la grande distribution a changé sa façon de fonctionner?
On y réfléchit, mais c'est vraiment pas notre cœur de métier, quoi. C'est pas ça. Quand je dis cœur de métier, attention, la banque alimentaire, c'est que des bénévoles. Mais voilà, c'est se réinventer un nouvel mode de fonctionnement qui est en réflexion au niveau de la Fédé, mais c'est aussi au niveau local. Il nous faut réfléchir comment aller chercher ces denrées, comment aller motiver nos producteurs pour pouvoir nous vendre des produits et puis ou nous donner. Enfin, c'est tout un exercice qui est à mener et qui n'est pas facile à mener aujourd'hui.
Donc normalement, votre corps de métier, comme vous le dites, le corps de métier de la banque alimentaire, c'est de récupérer des denrées. Et donc la banque alimentaire organise du 27 au 29 novembre partout en France sa collecte annuelle. Cette année, avec le contexte sanitaire, qu'est-ce qui est prévu, Didier Dussart?
Alors, la collecte n'est pas annulée, elle est reportée. Donc, elle est reportée, là, vous allez avoir un scoop, là. Donc, elle est reportée au 2, 3 et 4 avril. Donc, ça, c'est un scoop de ce matin. Et donc, mais en attendant, on s'est organisé autrement. On a lancé avec des petits magasins de proximité. On a déposé des caisses où les personnes voudront bien donner dans ces petits magasins. Alors certes, ça va pas combler nos 100 tonnes, nos 120 tonnes qu'on peut récolter chaque année, mais bon, c'est faire participer tous ces petits magasins. C'est également solliciter. C'est eux qui nous ont sollicités. Des collèges, des lycées qui nous ont sollicités pour dire, ben voilà, nous on veut bien vous faire une petite collecte au sein de notre établissement. Donc voilà, c'est des initiatives personnelles qui se passent comme ça. Et puis il y a un site qui a été créé au niveau de la Fédé qui s'appelle monpaniersolidaire.org où les personnes peuvent, moyennant des caddies à 6, 12, ça doit aller jusqu'à 25 euros, un truc comme ça, peuvent faire un petit don, et ce don est, on l'espère, sera ramené au sein des banques alimentaires locales.
Donc ça, ce site, il est en ligne depuis...
Le 20 novembre.
Depuis le 20 novembre, et c'est jusqu'au 15 décembre. Est-ce que après cette date, est-ce que vous... C'est déjà anticipé, comment ça va se passer après cette date? Est-ce que ça peut partir toujours dans cette optique d'avoir un site où on peut faire des dons? Ou est-ce que vous acceptez aussi que des particuliers vous déposent des dons de nourriture?
On accepte tous les dons, on les accepte. Je rappelle que le métier de la banque alimentaire, c'est avoir des dons. Donc plus on a de dons, mieux ça vaut. Petit don permet de nourrir beaucoup de personnes.
Et on peut peut-être juste rappeler en quelques mots, Didier Dussart, quels dons... Les dons les plus nécessaires, tout est nécessaire, mais est-ce qu'il y a des dons en particulier dont vous avez besoin à la banque alimentaire?
C'est tous les produits à conservation longue, tous les produits ADLC, ce qu'on appelle les produits frais, etc., sont à proscrire parce qu'on est obligé de les distribuer tout de suite. Nous, notre objectif, c'est qu'on puisse faire du stock et redistribuer, tenir sur tout le long de l'année, sur le long terme.
Donc au Secours Populaire, comment les habitants de l'Ain peuvent vous aider aussi?
Alors, pour ce qui concerne le Secours Populaire, et en considérant aussi cette date du 20 novembre, qui est un petit peu particulière puisque c'est la date anniversaire, c'est le jour anniversaire des droits de l'enfant, le Secours Populaire lance sa campagne des Pères Noël Verts. Alors, les Pères Noël Verts du Secours Populaire, ils sont là pour que Noël n'oublie personne. En fait, les Pères Noël verts, ils donnent un coup de main au Père Noël rouge, afin que celui-ci puisse passer partout, y compris chez les personnes en difficulté. En définitive, l'esprit de Noël doit être au rendez-vous. Alors, différentes actions sont en cours. On peut citer en partenariat l'opération des boîtes à chaussures de Noël, du 1er au 20 décembre 2020, grâce au travail de l'atelier éco-citoyen. Eh bien, on a la chance de pouvoir bénéficier de ces boîtes à chaussures qui seront remplies par tout à chacun et qui sont offertes aux bénéficiaires via le Secours Populaire.
Donc, peut-être dire qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces boîtes plus précisément?
Donc en fait, concrètement, tout le monde peut prendre une boîte à chaussures.
Tout le monde, tout à fait.
Et dedans, on met quoi alors?
Alors, on peut mettre un certain nombre de produits. Ça peut aller des produits d'hygiène. Mais après, ça peut être des friandises, des biscuits, des chocolats, un petit cadeau, une petite écharpe, un gant, un livre. Et puis surtout, vous n'oubliez pas d'insérer une petite carte en laissant un petit mot avant de renfermer, d'emballer et de laisser votre boîte dans un point de collecte.
Et on peut aussi préciser sur la boîte à qui est destinée cette boîte. Est-ce que ça va plus s'adresser à une famille, à un homme, une femme, à un enfant par exemple?
Tout à fait.
Et je vais peut-être aussi citer des points de collecte. Il y a par exemple l'Agora, pôle socioculturel à Perona, donc le Secours Populaire, ou encore la Maison de la Citoyenneté et de la Culture de Bourg-en-Bresse.
Bien, c'est des points que vous pouvez retrouver sur les réseaux, et notamment sur la page Facebook de l'association, qui est relayée aussi sur la page du Secours.
Et donc, après ces boîtes, vous en faites quoi? C'est donné quand?
Alors, c'est donné... Cette année, j'ai du mal à vous le dire, parce qu'en définitive, on a l'habitude de faire des regroupements un peu festifs à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Tout le monde comprend bien qu'aujourd'hui, ça va être un peu plus compliqué. Par contre, au moment des distributions, on remet des colis alimentaires un petit peu améliorés, etc. Ça sera l'occasion aussi de faire la distribution de ces boîtes à chaussures.
Bah, merci messieurs. Donc Didier Dussart, président de la Banque alimentaire de l'Ain, et Jean-Paul Albou, trésorier du Secours populaire de l'Ain.
Des nouvelles de l'association Emmaüs Servas. La communauté est toujours active et prépare les ventes de Noël. Ils ont même construit pendant ce temps un abri à vélo. Avis à ceux qui ont fait du tri pendant ce deuxième confinement. Vous pouvez de nouveau déposer vos dons à Servas du mardi au samedi de 9h30 à midi et de 13h30 à 16h. Et attention, c'est fermé le vendredi après-midi. La communauté espère pouvoir recevoir du public dès que possible.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ben, ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la bague. D'accord ? Vous voyez là derrière au fond, loin, il y a une vague.
En reportage avec Radio B.
Pas de réouverture avant mi-janvier pour les bars et les restaurants. Alors comment continuer leur activité ? La solution, les repas à emporter. C'est ce que fait le restaurant La Canaille, situé vers la gare de Bourg-en-Bresse. Un menu unique, c'est le concept, même en dehors du confinement. Son prix, 10 euros, et il reste constant pour pouvoir être accessible à tous. Nous sommes allés dans les coulisses de sa préparation.
Je suis Martine Massonat et c'est moi qui suis responsable de la cuisine sur le restaurant La Canaille et de la salle de restauration.
Donc, aujourd'hui, c'était quoi le menu ?
Alors aujourd'hui, le menu, c'est endives braisées et rôties de porc avec en dessert du riz au lait. Parce que dans les menus, dans les plats à emporter, on fait un plat du jour, un dessert et une boisson.
Et donc ça ?
Pour 10 euros.
Pour 10 euros.
Ouais. Alors, là, c'est la cuisine, hein ? Donc là, on est en train de cuisiner le riz au lait qui va partir pour le dessert. On a fait préparer les endives qui vont être braisées et la viande qui est en train de cuire sur le piano.
Il y a combien de menus à préparer aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on en est à 14 menus. Alors dans les bénévoles, il y a tous les il y a beaucoup de profils. Hein. Il y a des personnes, on a beaucoup de retraités hein, parce que pour venir aider en journée, voilà, c'est pas, il y a peu de gens qui ont une activité professionnelle. Donc il y a des gens, aujourd'hui on a par exemple une personne qui était une ex-infirmière, on a une ex-éducatrice, on a aussi des personnes qui vivent à l'hôtel qui viennent aider en bénévolat, on a une personne qui est chez elle, on a des enseignants à la retraite, on a des éducateurs à la retraite, on a... Voilà, enfin c'est un peu tout le monde, voilà. Mais souvent quand même des gens qui sont en lien, qui ont eu un métier avec des relations humaines, voilà.
Bonjour, je suis Joseph, je suis retraitée, infirmière avant.
Ça fait combien de temps que vous venez aider ici ?
C'est la troisième fois, alors il y a très peu de temps. Il y a une bonne ambiance, une excellente ambiance, c'est déjà ça. C'est bien, et puis on fait plaisir aux autres, puis aussi à nous.
Chantal, je fais pas un peu partie des meubles ? Dirons-nous. En ce moment, je viens parce que j'aime bien cette nouvelle expérience d'avant à emporter. Je trouve ça assez génial. Voilà.
Qu'est-ce que vous aimez ?
Alors, je trouve que c'est... D'abord, moi, je n'avais jamais vécu l'avant à emporter, donc je ne connaissais pas du tout. J'aime bien cette façon où on réfléchit à faire peut-être des plats qu'on ne ferait peut-être pas en temps normal quand c'est pour 50 ou 60 personnes. Alors, on regarde des recettes, on teste, voilà. J'aime beaucoup, hein.
Et donc là, vous avez fait quoi aujourd'hui ?
Alors moi, j'ai fait le riz au lait. C'est plutôt simple. Avec un zeste de citron. C'est dit qu'on n'allait pas le parfumer à la vanille, qu'on serait au zeste de citron aujourd'hui.
Moi, je m'appelle Nathalie. Ça fait 4 ans que je viens à La Canaille. J'aime bien venir. Je fais le service. Là, dans la cuisine le matin. Je fais la vaisselle. Je viens 2 fois par semaine parce que... Voilà, on est confinés. Et c'est dur. Hein. Mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Forcément, c'est comme ça.
Ça vous manque un peu l'ambiance ?
Ouais, ça manque un peu, les clients, tout ça, ça manque. On n'a pas le choix. Ça change, j'ai envie de rester à la maison entre 4 murs, c'est pas facile. Là.
Et donc là, vous commencez à cuisiner depuis quand ? Ça dure combien de
Alors,
temps ?
Alors nous, on commence à 8h30 parce que les plats, ils sont. On a mis qu'on les servait à partir de midi moins le quart. Donc voilà, donc le temps après que ça refroidisse un petit peu pour mettre dans les barquettes, qu'on prépare et tout. Voilà. Donc on arrive à 8h30.
Donc ça, c'est depuis qu'il y a eu ce confinement, vous faites à emporter. Ça a du succès ?
Alors, on est un petit peu étonné par le succès que ça a, effectivement. Ça a commencé plutôt pas mal. Après, selon les plats, il y a des plats qui attirent plus les gens que d'autres. Par exemple, mardi, il y avait du rougail saucisse, qui est un plat un peu particulier. Hier, c'était du couscous. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus attractif parce que c'est un peu ce qu'on fait le moins chez soi sur ce confinement-là. On a fait les plats emportés parce que on est partout autour de nous, les gens sont sur leur lieu de travail puisque l'activité pour une bonne partie n'a pas été arrêtée. On ne l'avait pas fait la première fois parce que de toute façon, il n'y avait aucune activité professionnelle, les gens étaient plutôt confinés. Donc bon, moi je pense que ça aurait peut-être moins marché parce que bah, de toute façon on n'avait déjà pas le droit de sortir de chez soi et tout. Enfin, le confinement était beaucoup plus dur. Donc voilà, par contre là, étant donné que les gens autour de nous sont au boulot, on s'est dit que ça maintiendrait un petit peu un lien avec les clients. Et puis ça fait une activité, une vie sociale un peu, même entre les salariés. Ça fait une vie aussi dans l'hôtel, en lien avec les personnes qui sont hébergées, enfin qui sont logées au temps des cerises. Donc voilà, c'est un petit peu pour tout ça qu'on a mis en place les plats emportés.
Et donc quel a été le retour des personnes qui viennent chercher leurs plats? Est-ce qu'ils sont contents?
Alors moi, les retours que j'ai, oui, les gens sont très contents, ben, déjà sur le prix. Ils sont très contents d'avoir un plat du jour et un dessert et une boisson pour ce prix-là. Après, on a quand même des clients qui étaient quand même assez fidèles au restaurant. On a d'autres personnes. Écoutez, les retours que j'ai, les gens disent que c'est plutôt que c'est bon. Voilà, donc c'est plutôt valorisant.
Et donc c'est plus un public que vous connaissez ou des fois il y a des gens nouveaux qui arrivent?
Alors, il y a une partie du public qu'on connaît, une autre partie qu'on connaît moins. Après, vous dire si ces gens ont fait partie des clients ou pas, parfois, il y a des gens qui sont venus manger qu'une fois. Moi, je ne suis pas toujours en salle, hein, donc, puis bon, on ne mémorise pas non plus tous. Je pense qu'on a aussi une partie de personnes, de gens qui passent et qui voient les affiches. Donc, voilà, oui, il y a un monsieur, par exemple, qui m'a dit, bah, je viens de m'installer dans le quartier en me promenant dimanche, j'ai vu que comment vous faisiez. Donc, oui, je pense qu'on a aussi des nouvelles personnes qui ont vu les affiches et puis qui se sont dit, bah, tiens, on s'arrête.
Bonjour, je viens retirer un plat pour Elodie.
Ouais. On va choisir pour
demi. Et vous avez repeint.
Ouais, c'est beau, hein.
C'est sympa comme ça.
C'est sympa, hein.
Bah ouais. Tu peux régler par carte, hein, ouais, c'est bon. Mm-hmm.
Ok, et ben merci, en tout cas, c'est pratique pour nous.
Voilà.
Allez, bonne journée.
Merci, au revoir.
Le restaurant La Canaille devait fêter ses 10 ans en septembre, un événement annulé à cause de la pandémie, mais les bénévoles et les salariés attendent avec impatience de pouvoir célébrer comme il se doit cet anniversaire dès que les conditions le permettront.
Et retrouvez un reportage long format sur l'historique de la Canaille mercredi dans l'émission Vous avez la solution sur Radio B 90 FM à 8h et midi.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer ben, les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.